Complètement à l'Ouest, l'émission qui parle de tout sauf d'immobilier. Présentée par Philippe Boyer, directeur de l'innovation chez Covivio.
Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 56e émission de Complètement à l'Ouest. Alors les auditeurs de Complètement à l'Ouest ne mesurent pas à quel point je suis véritablement honoré de recevoir un grand monsieur. La formule n'est pas galvaudée car mon invité est à la fois une référence et un observateur des plus attentifs de notre planète. Sans lui, nous serions beaucoup moins éveillés, moins savants, moins informés sur l'univers qui nous entoure et les milliers de créatures différentes qui le peuplent, non pas l'univers au-dessus de nos têtes, mais bien de l'univers du dessous, celui des grands fonds, des abysses qui recouvrent plus de 70% de notre globe. Ce monsieur sait de quoi il parle, car il allie la théorie et la pratique, docteur en océanographie, plongeur professionnel, conseiller scientifique du célèbre Commandant Cousteau et du cinéaste Jacques Perrin. Il est aussi le cofondateur de l'association 181 dont l'objectif est la protection des océans. Avec cette personnalité passionnante, nous allons aujourd'hui parler mer, océan, mais surtout cachalots, requins, dauphins, baleines, orques, bref, ces grands carnivores qui nous fascinent autant qu'ils nous effraient. Auteur très prolifique avec par exemple « Au nom des requins » paru en 2022 ou « Le retour de Moby Dick » ou « Ce que les cachalots nous enseignent sur les océans et sur les hommes », mon invité est une sommité pour tout ce qui touche à la connaissance profonde de notre planète bleue. C'est parti, droit devant, larguons les amarres et cap à l'ouest, complètement à l'ouest.
Complètement à l'ouest, sur Radio Imo et Radio Territoria.
Bonjour François Sarano.
Bonjour Philippe Boyer.
Et bienvenue vraiment au micro de Complètement à l'ouest pour cette émission, je le disais, consacrée aux mers, aux océans, et vous nous faites l'honneur d'être ici à Paris en studio. Alors je sais que 30 minutes pour évoquer cet abyssal sujet risque de faire un peu court, très court même, mais en m'appuyant sur les deux livres que j'ai lus de vous, ceux que je citais, Le retour de Moby Dick et Au nom des requins, nous allons essayer d'échanger sur quelques thématiques qui sont au cœur de nombreuses préoccupations environnementales, à commencer par les inquiétudes sur l'état de nos océans. Alors François Sarano, il est de tradition de démarrer cette émission par un extrait sonore, histoire d'entrer un peu dans le sujet du jour. Et là, même s'il faudra un peu tendre l'oreille, je peux déjà vous affirmer qu'il ne s'agit pas d'une quelconque musique électronique, mais bien naturelle. On l'écoute. Alors je ne vous fais pas l'insulte, bien sûr, de vous demander ce qu'il pouvait bien être pour cette drôle de mélodie. Il s'agissait bien sûr du chant des baleines au large de l'île de la Réunion. Et je dois vous avouer que j'ai hésité avec la chanson de la petite sirène quand même sous l'océan pour ce premier choix musical. François Sarano, j'aimerais débuter cet entretien en vous posant cette question d'hyperactualité. Début avril, à Paris, il y a eu le sommet SOS Océan destiné à préparer la troisième conférence des Nations Unies sur les océans, conférence qui se tient à Nice au moment où cette émission va être diffusé. Pendant tout ce printemps 2025, on a vu dans la presse des tribunes appelant plus que jamais à sauver, dépolluer les océans. L'acteur Harrison Ford a écrit dans la presse un appel à l'action. Question toute simple pour commencer, l'état des mers et des océans est-il aussi toujours si critique? Et du fait des appels et des prises de conscience de ces dernières années, rien ou pas grand-chose n'a bougé, point d'interrogation.
Eh oui, nous allons mal. Je dis nous. Parce que l'océan, c'est nous. Nous avons la même eau, l'eau, E-A-U, qui coule dans nos veines, qui coule dans les arbres, dans les oiseaux, dans les rivières, dans les nuages, dans l'océan. Si nous empoisonnons l'océan, nous nous empoisonnons. Si nous saccageons l'océan, nous nous saccageons. Si nous blessons l'océan, nous nous blessons. Et oui, ça va pas bien. Non seulement nous surexploitons les quelques ressources que nous pouvons en tirer, que la mer peut nous offrir, mais encore, nous l'empoisonnons. C'est pas une nouveauté. Malheureusement, les choses s'accélèrent. Malheureusement, notre saccage se poursuit et s'accélère.
S'accélère, dites-vous.
Je dis s'accélère, malgré tout ce qu'on dit depuis 40 ans. J'ai fait partie de l'équipe Cousteau qui était à Rio en 1992, au grand sommet de la Terre, qui devait nous amener dans un 21e siècle durable, équitable. Depuis, malgré les alertes, malgré celles des scientifiques, des observateurs de la mer, nous avons poursuivi dans notre course insatiable à la destruction de la planète.
Je sens la tonalité de votre voix. On va tout de suite, bien sûr, aborder vos ouvrages, mais que vous êtes très tendu et très pessimiste au son de votre voix.
Et avez-vous des enfants ? Moi, j'ai des enfants, j'ai une petite fille. Je voudrais lui léguer une terre désirable, où il fait bon vivre. Et malheureusement, malgré tous les efforts et toutes les alertes, nous n'allons pas dans la bonne direction. Et encore une fois, je parle de 40. Ça fait 40 ans qu'on dit ça. Ça fait 40 ans.
Et donc, il est encore temps d'agir.
Il est urgent et toujours temps d'agir, bien sûr. D'abord parce que la mer est résiliente. Parce qu'ensuite, il ne faut pas en rajouter une couche. Aujourd'hui, le changement climatique en cours, qui met en œuvre l'ensemble des forces de la planète, de la circulation océanique, de la circulation atmosphérique. C'est quelque chose qui est en route. Mais c'est pas la peine d'en rajouter. Il est urgent de modérer la consommation des combustibles fossiles qui augmentent l'effet de serre. Urgent! Comment dire? J'ai l'impression que cette urgence est devenue sorte de banalité et que tout d'un coup on la traite comme ça, bon, comme n'importe quelle nouvelle. Mais c'est pas n'importe quelle nouvelle. Vraiment, vraiment. Si vous avez des enfants, pensez à ça.
J'en viens à présent à vos ouvrages que j'ai ici dans ce studio, qui relatent ce que, au titre de ces dizaines d'années passées à nager dans les mers et les océans, vous avez observé. Dans le retour de Moby Dick, vous écrivez dans la préface « Qu'allons-nous apprendre aux côtés des cachalots sur leur vie, sur l'océan et sur nous-mêmes ?» Je vous retourne la question, François Sarano. Quelle leçon d'humanité les cachalots, ces monstres marins à sang chaud, et de ce fait un petit peu nos cousins éloignés, nous enseignent-ils ?
Ah, vous avez leçon d'humanité. Tout de suite, le mot juste, parce que vraiment, nous sommes proches, les cachalots et nous sommes des mammifères. Et ils vivent en société. Et ce qui caractérise leur société ? C'est la solidarité. Et oui, solidaire. Les cachalots ont conquis la niche écologique des profondeurs. Ils vont chasser dans les abysses grâce à la solidarité sociale. Parce que les grands adultes, lorsqu'ils vont pêcher, ils vont laisser leurs jeunes en surface, dans une zone où il n'y a nulle part où se cacher, nulle part où fuir les prédateurs. Et ils confient ces jeunes à une babysitter, à une crèche. Toute la société est tournée autour de cette solidarité et là, en l'occurrence, de la babysitter qui tient lieu de personnage principal au cœur de la société parce qu'elle protège les petits. Et puis, on découvre aussi que chaque mère a pour l'aider dans sa tâche maternelle lorsqu'elle n'a plus de lait, une compagne qui est la nounou allaitante, qui va s'occuper de son petit, alors qu'elle-même, la nounou, n'a pas de petit. Et elle va allaiter au moment où la mère n'est pas là, et où le petit est en demande, ou alors lorsque la mère n'a plus assez de lait pour pouvoir subvenir aux besoins de son petit. Et puis, lorsque les prédateurs arrivent, eh bien, le groupe se forme, se soude, et si l'un est isolé, d'autres sortent de l'abri du groupe pour aller essayer de l'aider et parfois aux dépens de leur propre vie. Il y a une solidarité incroyable. Nous devrions en prendre la graine, une bonne leçon.
C'est passionnant, on vous écouterait des heures et malheureusement le temps tourne, j'ai encore de très nombreuses questions. Alors en lisant votre livre, on suit les périples du clan d'Irène Gueule Tordue, avec Delphine, avec Vanessa, avec Lucie, aux côtés de Roméo, Elliot et autres, Arthur et Maurice. Vous décrivez ces cachalots comme faisant partie, vous le disiez à l'instant, d'une société matriarcale, stable et très soudée. Diriez-vous que ce sont des animaux intelligent, et si oui, quelle est cette forme d'intelligence? En disant cela, vous qui les connaissez si bien, puisque vous avez nagé avec eux, vous les avez observés lorsqu'ils dormaient en chandelle, quelle est leur cognition? Comment fonctionne leur cerveau? Et autre question, qu'est-ce qu'on a en commun avec ces cachalots?
Alors, je vais commencer par le plus simple. Ce qu'on a en commun, c'est d'être des mammifères. Les cachalots, il y a 55 millions d'années, leurs ancêtres couraient à terre. Et petit à petit, ils sont allés en mer et ils ont conquis l'océan et ils ont pris la forme que nous connaissons aujourd'hui. Donc nous sommes des cousins très très proches. Et leur intelligence, mais je serais bien incapable de répondre, je ne peux pas me mettre à leur place. Ils ont des sens que nous n'avons pas. Ils ont une capacité incroyable à percevoir les faibles variations du champ magnétique terrestre et de s'orienter ainsi dans les océans, les vastes océans, ils font des migrations incroyables. Ils ont la capacité d'utiliser les...
On va les entendre plus tard.
Eh oui, ces clics dont ils vont écouter l'écho lorsque le son rebondit sur un obstacle, que ce soit une falaise ou une proie. Donc ils ont une perception du monde que nous les humains n'avons pas. Nous n'avons pas les mots pour décrire ce qu'ils ressentent. Ils ont des sens plus riches que les nôtres. En conséquence, bien difficile de dire quelle est leur intelligence, quelle est leur conscience du monde. En revanche, ce que je sais, pour l'avoir vécu des dizaines de fois aux côtés de ces cachalots extraordinaires qui nous acceptent, ces animaux sauvages, non seulement nous permettent de vivre avec eux, mais de temps en temps, certains d'entre eux viennent au-devant de nous et nous interrogent, et même parfois tentent de nous apprivoiser. Et nous, les chercheurs, et moi en particulier, le chercheur qui avait l'habitude de disséquer les autres pour mieux les comprendre, je me suis retrouvé dans une situation tout à fait étonnante. J'étais tout d'un coup l'objet d'études de l'un des cachalots qui s'appelle Elliot, et qui est resté avec moi, et avec une grande force, attention, il a essayé, oui, de m'apprivoiser, de tisser des liens, de m'interpeller, de me demander des caresses.
Comment a-t-il fait?
D'abord parce que ils ont des positions particulières pour demander entre eux, pour échanger entre eux et se demander des caresses. Ils se mettent sur le dos, ils offrent leur ventre, ou ils font des pirouettes en chandelle, et parfois, et ça, c'est extraordinaire, ils utilisent des expressions sonores que nous appelons des codas, et qui, si le cachalot interpellé répond, demande des caresses, et ils échangent des caresses. Et cette coda particulière est à 8 clics. Et si l'autre répond, alors les deux cachalots s'assemblent et se font des caresses. Et c'est ce que Elliot est venu me demander. Lui, l'animal sauvage, c'était lui le maître du jeu.
La taille et son poids, c'est Elliot.
Alors, la taille et son poids. La taille, c'est une dizaine de mètres. Et son poids, c'est rien. Et oui, le poids d'un cachalot vivant dans l'eau qui le porte... Bien sûr. C'est plus léger qu'une hirondelle et qu'un papillon. Le cachalot est capable de faire des cabrioles et toutes les arabesques sous le ciel de l'océan. Il ne pèse 30 tonnes que lorsqu'il est cadavre mort sur le pont d'un baleinier. Et c'est comme ça que nous avons l'habitude de dire les baleines pèsent 50 tonnes. C'est faux. Il faut oublier notre référentiel. Il faut rentrer dans leur monde pour tenter de les comprendre. Si nous voulons un petit peu saisir leur intelligence et leur conscience du monde.
Justement, on va, et c'est à l'ouverture du chapitre 10 de votre livre, encore une fois, Le Retour de Moby Dick, un fantastique livre, je me suis vraiment régalé. Avec ce chant des baleines, on va tout de suite écouter ces clics que vous évoquiez. ces clics qu'on a entendus et qui sont en écho à ce que vous faisiez avec plus ou moins de rapidité, vous écrivez ces clics qui servent à la géolocalisation, vous en avez parlé, servent tout à la fois à analyser, à voir, à interpeller et même à caresser à distance. Vous en avez donné un magnifique exemple. Si on rentre un peu dans le détail, est-ce que ces bruits sont propres à un clan de cachalots? Est-ce que chaque clan a son dialecte, peut-être son accent?
Oui, on peut le dire comme ça. Chaque clan utilise des expressions qui lui sont propres. C'est ce que nous découvrons avec le clan avec qui nous partageons des semaines et des semaines chaque année. Ça fait plus de 15 ans qu'on va nager avec nos amis cachalots. Et je dis nos amis parce que véritablement, ils se tissent des liens. Et ça, c'est formidable. Des liens inter-espèces, à leur initiative. Oui, donc, le clan d'Irène Gueule Tordue utilise cette fameuse coda. Donc, une série de clics stéréotypés, particulière à 8 clics. Les autres clans n'utilisent pas la même coda. Le clan, par exemple, de Rechna utilise une coda à 6 clics. 2 plus 4. Ou la traditionnelle 5 clics. Régulière. Il y a une grande variété et chaque clan, eh bien, utilise des expressions qui lui sont propres.
Et les clics qu'on a entendus, que vous faites, vous les percevez à l'oreille quand vous êtes dans l'eau ou par des appareils?
Alors, non, on les perçoit, c'est dans l'audible. Les clics que vous avez passés, les premiers, c'est des clics soit de caresse, soit d'interpellation directe, très proche. Et puis, il y a eu une petite séquence qui était des clics de fond, qui étaient des clics de chasse, qui sont... Ça, c'est lorsqu'ils sont à 1000 mètres de profondeur, dans la nuit des profondeurs, pour essayer de percevoir leur proie, et puis de les rattraper pour les manger.
On va marquer, c'est très intense cette émission, une petite pause musicale et avec ce morceau de circonstance, il s'agit d'Alan Silvestri, l'ouverture du film Forrest Gump. C'est une musique en tout cas que j'analyse comme étant très calme, très douce et très belle et qui fait du bien. Est-ce en lien, c'est vous François Sarano qui avez choisi cette musique, quel est le lien entre, si je puis dire, la mer, les océans, les cachalots et cette musique?
L'humanité, parce que le film... Et quelque chose qui nous montre à quel point il est bon d'accepter la différence et surtout d'être humain avec tout le monde, avec toutes les créatures vivantes.
On écoute. Elle est de retour avec François Sarano, cette magnifique musique en effet qui met beaucoup de sérénité, beaucoup d'humanité. François Sarano, je le disais, éminent océanographe à la bibliographie impressionnante et qui se contente pas seulement d'écrire des ouvrages sur nos mers, nos océans et sur les animaux qui y vivent, il est aussi plongeur. Alors, je disais à l'instant que vous êtes plongeur, même si je suis pas si vieux que ça, je me souviens qu'on parlait à l'époque d'homme-grenouille.
Absolument.
Et aujourd'hui, on parle de plongeur. Et la question que je me pose, c'est celle de savoir si nous faisons bien ou pas d'entrer en contact avec l'animal sauvage. Je dirais même que c'est une question qui déchaîne les passions à l'heure où notre planète va mal. Vous le disiez là aussi en début d'émission. Comment arbitrer cette question presque existentielle ?
Rencontre. On n'a fait pas l'économie de la rencontre quand on veut comprendre l'autre. Mais il faut le faire avec humilité et respect. D'abord, c'est toujours l'animal sauvage qui vient au devant de l'humain. Nous sommes des nageurs très 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 maladroits. Et je crois que c'est fondamental d'essayer d'être ouvert à l'autre. Une rencontre, c'est quelque chose qui se mérite. Et avec un animal sauvage, on ne triche pas. Au contraire, on apprend à rencontrer l'autre. On apprend à trouver la distance juste. Au-delà, encore une fois, de la compréhension, vous me posiez tout à l'heure de savoir si je savais quelle était l'intelligence. Non, je ne saurais pas. On ne communiquera jamais, les cachalots et nous, les requins et nous. On est trop différents. Et pourtant, au-delà de ces différences, au-delà de cette incompréhension, on arrive à trouver la distance juste pour vivre en paix. Je crois que c'est important d'aller à la rencontre. Le pire de tout, c'est l'indifférence. Et aujourd'hui, on voit disparaître dans l'indifférence générale, dans l'ignorance générale, les autres vivants qui sont autour de nous. Il faut leur donner existence, il faut prêter attention à eux, il faut avoir de la considération pour eux. Et à ce moment-là, nous pourrons vivre en paix sur cette planète. Mais attention, une rencontre, ça ne s'achète pas, ce n'est pas une consommation. C'est une mise au service de l'autre. C'est vivre en harmonie un moment, encore une fois, même si on ne se comprend pas. C'est ça, la rencontre. C'est ça qui est important avec les animaux sauvages.
On a beaucoup parlé de baleines, de cachalots, mais pas encore de requins. Et au nom des requins, l'autre ouvrage de votre part que j'ai lu et que j'ai adoré, je l'ai lu avec passion, vous plaidez pour une meilleure compréhension de ces animaux. Depuis tout le folklore cinématographique autour de ces animaux-là, comment est-ce que la perception du public à leur égard peut changer sur le requin qui, immédiatement prononcé, fait peur, alors que, et à vous lire, évidemment, il n'y a pas lieu d'avoir peur.
Pourquoi ? Parce que je les ai rencontrés. Parce que je suis allé sans protection, sans armes, sans rien, le cœur ouvert, nu. Je suis allé nu à leur rencontre. Et là, tout d'un coup, on découvre véritablement qui ils sont. Ce sont des seigneurs, souvent timides. Ah, il est tellement difficile de les approcher. Et puis, lorsque l'on veut tout d'un coup nager côte à côte avec quelques centimètres de confiance qui nous réunit, au lieu de nous séparer, alors il faut développer des trésors de calme, d'humilité, de patience. Et tout d'un coup, lorsqu'on peut nager aux côtés d'un grand requin blanc de 5 mètres, c'est un bonheur infini qui vous envahit. Parce que tout d'un coup, vous vous dites, c'est possible, si je peux nager librement aux côtés de ce grand requin blanc que je ne peux pas comprendre, mais qui m'accorde sa confiance, alors je peux le faire avec chacun d'entre nous. Au-delà de toutes les incompréhensions culturelles ou religieuses, etc. Allons à la rencontre, je plaide pour la rencontre, mais la rencontre sincère.
On approche malheureusement de la fin de cette émission, le temps file à une vitesse incroyable et je souhaiterais bien sûr à nouveau vous interroger sur l'état de nos mers et nos océans. Le triste constat vous est connu, l'étendue mondiale de la banquise atteint un minimum historique, ça c'est le premier point. Le deuxième point, le rythme de réchauffement des océans a plus que quadruplé depuis 1985 avec une hausse de 0,27 degrés par décennie. Ça paraît rien, mais c'est en fait énorme. Et enfin, troisième point, le plus grand courant océanique, celui que vous évoquiez tout à l'heure, celui qui fait le tour de l'Antarctique, se ralentit, ce qui aura pour effet de détraquer le thermomètre de notre planète. L'océanographe que vous êtes, évidemment, comment est-ce que, j'aimerais à nouveau qu'on revienne sur cette question, comment est-ce qu'on peut inverser les choses?
Nous n'inverserons pas les choses, mais nous devons faire en sorte de ne pas les accélérer. Encore une fois, aujourd'hui, tout le monde sait ce qui se passe. Alors, on ne peut pas partir sur la pointe des pieds en disant « Ouh, je ne savais pas !» et léguer à nos enfants une planète infernale. Je, mon épouse, l'association Longitude 180, nous engageons parce que nous savons et que nous avons le devoir et l'amour de nos enfants, le devoir de faire quelque chose. Oui, nous pouvons changer notre consommation. Oui, dans le livre écrit par mon épouse « Sauvons l'océan » aux éditions Vagnon, eh bien, elle donne des tas de petites recettes pour faire quelque chose et s'engager sur la bonne voie. Il va y avoir en juin prochain la conférence des Nations Unies sur l'océan. Nous militons pour des changements profonds, en particulier, j'évoquais tout à l'heure, la reconnaissance de ces créatures marines qui disparaissent dans l'indifférence générale. La reconnaissance, c'est leur donner un droit d'existence. Il faut donner des droits à l'océan pour que nous puissions accorder notre droit de vivre à nous, à leur droit d'existence à eux. Et pour ça, nous avons même mis sur Internet une pétition pour le droit des océans. Allez voir, change.org, pétition pour le droit des océans. Appel pour le droit des océans. Et à ce moment-là, nous pourrons à nouveau reprendre une juste voie qui va nous permettre de tenter d'offrir à nos enfants, parce que l'océan est résilient, une planète agréable.
Avec la passion qui est la vôtre, je suis persuadé qu'il va y avoir de nombreux, voire de très nombreux visiteurs qui vont se précipiter sur cette pétition que vous citiez sur le site change.org, c'est ça hein?
Oui. Ou Longitude 180.
Hein. Ou Longitude 180. Cette avant-dernière question, en vous faisant écouter ces quelques secondes suivantes.
Au cœur du Pacifique, longitude 150 degrés est, latitude 7 degrés nord. À bord d'un vieux remorqueur qui porte un nom prometteur, le Hopeful, une équipe de plongeurs de la Calypso, sous la direction de Philippe Cousteau, arrive sur un groupe d'îles volcaniques situées au cœur de la Micronésie.
Oui, c'est là être honnête.
Le lagon d'une de ces îles, Truk, est un port naturel de 64 km de large, qui était autrefois l'un des meilleurs mouillages du monde et qui est maintenant souillé par les vestiges de la guerre.
Les épaves qui émergent du lagon sont les témoins silencieux d'un raid de bombardement américain au cours de la Deuxième Guerre mondiale.
Alors je dois vous faire une confidence, les reportages de la Calypso du commandant Cousteau ont bercé mon enfance et d'ailleurs au titre de ce reportage qu'on a juste entendu, j'ai cru vous apercevoir à l'image, il me semble, c'est un reportage d'ailleurs qu'on peut retrouver sur YouTube. Dans le paysage audiovisuel, il y a bien sûr les aventures de la Calypso, il y a eu Thalassa sur France 3 avec Georges Pernoud qui a officié très longtemps à cette émission. D'une certaine façon, il y a eu aussi Ushuaïa, Nicolas Hulot dans les années 90. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui comme émission grand public destinée à sensibiliser avec votre verve, votre passion, la beauté de notre planète, alors que celle-ci en a tant besoin?
Alors, à l'époque de Cousteau, il n'y avait qu'une seule télévision, il était diffusé dans des 100 pays, donc c'était plus facile. Aujourd'hui, la dispersion des médias voit éclore, naître toutes sortes de personnes qui montrent des petits reportages extraordinaires, des lieux qu'ils visitent. Donc, on n'est plus à la même époque. Et il ne faut pas rechercher ça. Il faut essayer de trouver par soi-même et d'essayer de rechercher l'océan, le vivant, à côté, juste à côté, dans les insectes, dans les fleurs, dans les oiseaux, dans les poissons, dans les rivières. Le vivant est partout. Et je pense que c'est une redéfinition de cet océan mystérieux. Il est mystérieux, mais il faut lui faire de la place dans nos cœurs, dans nos têtes, et pas essayer de rechercher une âme, quelqu'un qui va montrer le grand océan mystérieux. Il est à notre portée, mais il faut avoir l'humilité d'aller le chercher.
Une toute dernière question, un peu iconoclaste, mais j'assume. Lorsqu'on pleure, nos larmes sont salées. Est-ce que c'est un lointain héritage de notre origine aquatique, pour ne pas dire océanique?
Alors, il y a une vraie hypothèse, c'est qu'au moment où la première cellule s'est formée, au moment où elle s'est isolée avec une membrane autour d'elle, le milieu intérieur était isotonique, il avait la même salinité que le milieu extérieur à 9 pour 1000. Et puis, les océans ont continué à se saler, et les cellules, et donc tous les corps vivants ont conservé la trace de l'océan originel dans lequel il s'était formé il y a maintenant des milliards d'années. Nous sommes tous frères, 3,8 milliards d'années de coévolution entre tous les vivants qu'on peut voir aujourd'hui.
Merci beaucoup François Sarano d'avoir accepté de venir à ce micro pour cette 56e et très belle émission de Complètement à l'Ouest. C'est l'avant-dernière émission de la saison. Ce fut un vrai plaisir mais surtout un véritable honneur et je recommande bien sûr chaleureusement à tous les auditeurs de lire vos écrits, cette, la profondeur de vos écrits, du nombre foisonnant d'ouvrages que vous consacrez aux mers, océans et surtout aux espèces qui peuplent ces lieux. À nouveau, je cite Le Retour de Moby Dick au nom des requins, mais également Justice pour l'étoile de mer, Réconcilier les hommes avec la vie sauvage, et puis vous l'avez amené en studio, merci beaucoup. Vous le citiez tout à l'heure, votre épouse et vous-même, Sauvons les océans, les 10 actions pour réagir, avec la préface d'Isabelle Autissier. En tout cas, sur Le Retour de Moby Dick et au nom des requins, vous pouvez en témoigner, vu le nombre de marques de Stabilos sur ces livres, je me suis véritablement régalé à les lisant du début jusqu'à la fin. Complètement à l'ouest poursuit sa route et son cap et reviendra le mois prochain pour une nouvelle émission, la 57e du genre et la dernière de la saison, au cours de laquelle nous parlerons de tout autre chose, puisque nous parlerons de flemme et de son contraire, l'effort. Ce sera avec l'essayiste Olivier Babot qui a publié L'ère de la flemme récemment. Comme à mon habitude, on ne les voit pas, on ne les entend pas, mais en tout cas, s'ils n'étaient pas là, cette émission ne pourrait pas avoir lieu. J'adresse mes remerciements à toute l'équipe technique qui œuvre en régie pour que l'enregistrement, la diffusion de ces émissions se passe au mieux. Merci beaucoup à vous. Et puis, bien sûr, je le rappelle, à chaque fois cet épisode et tous les autres peuvent être réécoutés en podcast, en balado-diffusion, comme on dit en bon français, sur les principaux players en ligne. Je pense à Spotify, je pense à Apple Podcast et à d'autres. Voilà, chers amis auditeurs, auditrices, vous savez tout, il ne me reste plus qu'à préciser selon la formule qu'il nous faut garder le cap, plus que jamais, le cap à l'ouest, complètement à l'ouest.
Complètement à l'ouest, une émission à réécouter et télécharger sur les sites et applis de Radio Imo et Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.